Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges. Bon, le podcast, vous connaissez quasi quotidien, où l'on résume et analyse les différents matchs qui sont passés dans les séries de la Ligue nationale de hockey. Pour en parler aujourd'hui, on est quatre. On aime ça, les podcasts à quatre. Je suis en compagnie de Douali Ibrahim, Vincent Tardif et Grégory Hamel, la crème de la crème, quoi. Comment ça va, les boys?
Ça va, toi?
Ça va bien.
Très bien, Yes, très bonne soirée d'hockey hier, divertissante. Entre autres, là, le match Bruins-Panthers, n'est-ce pas?
Ouais. C'est indéniable. C'est tiré-là a pris une tournure assez extraordinaire. À la base, je pensais que c'était... Moi, en tout cas, personnellement, je pensais que c'était fini après le match numéro 5, mais non. C'est... On va voir le match numéro 7, ça va être le fun.
Yes, et on a aussi deux séries qui se sont terminées. Deux séries qui se sont terminées hier, à commencer par celle entre les Hurricanes et les Islanders. Match numéro 6, donc gagné par les Canes. C'est Cole Clutterbuck du côté des Islanders qui ouvre la marque. Le premier but de la série pour lui est son dernier parce que les Islanders sont éliminés. Deuxième période, pas de but. Troisième période, Aho va marquer. Très bonne série pour Sébastien Aho. Un but spécial là, où il a rabattu la rondelle avec sa main avant de la mettre dans le but avec son bâton. Et en prolongation, c'est Paul Stastny qui va marquer pour les Hurricanes avec pas le but sur lequel Sorokin aurait voulu finir, ça c'est certain. Là, un but un peu poche là, pour finir cette série-là. Mais c'est le but gagnant et les Hurricanes passent au prochain tour. Je vais commencer avec Guitain. Tes impressions sur ce match-là où les Islanders ont encore manqué d'offensive et en fait à l'image de la série.
Ouais, fait que c'est qui qu'il fallait qu'il parle, Lee?
j'ai dit Greg. Ah, j'ai pas dit Greg. Je m'adresse à toi, Grégory.
Oui, parfait. Écoute, c'est malheureux pour les Islanders, surtout pour Sorokin. Comme tu as mentionné, c'était un but douteux. Là. C'est lui qui avait transporté cette équipe-là jusqu'en série, qui avait forcé quasiment à... il avait été très bon en série et en saison. Donc, c'est vraiment malheureux pour lui de finir sur cette note-là. C'est sûr c'est un but qu'il aimerait revoir. Les Islanders ont eu les devants pendant quasiment toute la partie. Là, du milieu de la première jusqu'en milieu de troisième, ils ont mené. Côté des Islanders, je pense eux qu'on peut vraiment pointer du doigt là, du côté du monde extérieur, c'est vraiment la première ligne des Islanders. Horvat, Barzal, je pense à eux deux combinés ont 4 points. Sinon, je veux dire, les autres trios ont quand même ont fait leur boulot. Là. Palmieri a connu des bonnes séries. Nelson, Pajot, Parisé, Fashing, je veux dire, leur quatrième trio aussi a bien performé relativement à nos attentes envers eux. Par contre, là, c'est quand même assez remarquable qu'ils se soient rendus jusqu'en prolongation du sixième match en ayant une première ligne qui performait pas. Ça va être intéressant de voir là, comment on va gérer l'été pour eux. Puis pour les Hurricanes, je pense qu'ils étaient les favoris pour remporter cette série-là. Puis je veux dire aussi on pourra parler un peu de Anderson là, qui est devant les filets. Ranta était devant les filets pour les 5 premiers matchs. Donc ça, c'est une décision qui a fonctionné ultimement, mais qui était un peu spéciale.
Ouais, voulez-vous enchaîner là-dessus, mettons, Vince?
Je trouve que ça a été un bold move là, des Hurricanes de faire jouer Anderson. Mm-hmm. C'est sûr que ça changeait peut-être un peu la. Ça voulait peut-être changer un peu le vent de bord là, en le faisant jouer. Mais tu sais, au final, je pense que les Islanders, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour battre les Hurricanes. Même si moi je les avais mis en 7, j'étais quand même content de voir que c'est en overtime, que c'est peut-être allé une chance de retourner ça en Caroline, là, mais il y en a parlé. Là, un mauvais but de Sorokin leur a coûté la série, puis vraiment aussi le manque d'apport offensif là, du côté Islanders. Ça fait une couple d'années qui ont le même système, puis que ça marche un peu, mais ça marche pas tant que ça. Puis il va falloir qu'ils revoient ça un peu, comment ça marche.
D'où?
Écoutez, vous savez, je ne suis pas vraiment fan des Islanders, mais je ne vais pas être là pour les détruire. Franchement, j'ai trouvé que les Islanders, pour vrai, je trouvais qu'après les deux premières périodes, avaient joué les deux meilleures périodes de cette série-là. J'ai trouvé que le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas été opportunistes. C'est malheureusement ce qu'ils ont coûté au final. Surtout en deuxième période, là, ils ont eu des occasions de marquer. Moi, il y a une séquence qui me revient en tête et que je n'en reviens pas, puis ça vient démontrer pourquoi la première ligne ne fonctionne tout simplement pas. C'était que je crois que c'était un 2 contre 1 qui s'est transformé en une échappée un peu loufoque ou que Endersley a sauté sur la rondelle pour essayer de la diriger au but. Après ça, tu vois Mathieu Barza complètement tout seul qui rate son tir à plusieurs reprises. Il aurait pu marquer 2 fois dans un filet des arbres, puis il n'a pas été capable de réussir à marquer ce but-là. Moi, c'est à partir de là, je me suis dit, OK, c'est clair que les Islanders vont perdre cette série-là parce que tes 2 meilleurs joueurs, même tes 3 meilleurs joueurs offensifs qui sont supposés être Mathieu Barza, Barvat et Endersley ont été absents dans cette série-là. Surtout Barvat, là, je suis désolé, là, mais Barvat, là, avec son contrat qui arrive, s'il joue comme ça, ça va être long pour les Islanders.
Trop long puis trop cher.
Trop cher, 8 années. Pour vrai, Lula Mariello, là, contrat terrible. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a 80 ans, là, mais genre, à un moment donné, on en parlera d'une autre fois de ce contrat-là. Mais moi, je trouvais que les 2 premières périodes des Islanders étaient parfaites, sauf qu'ils ont manqué peut-être de marquer ce 2e but-là. Surtout que tu as Elias Sorokin qui, à part le mauvais but qui a accordé la prolongation, a eu une série impeccable. Mm-hmm. Puis si tu pouvais marquer un autre but ou peut-être 2 de plus, les Islanders auraient pu amener cette série-là en 7 matchs. Puis peut-être que là, en 7e match, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là. Malheureusement pour les Islanders, j'ai vraiment l'impression qu'après le but égalisateur de Sébastien Nao, ça les a complètement coupé. Leur vent d'aller, puis malheureusement, ben, la meilleure équipe l'a emporté, puis au final, la logique a été respectée, malgré que je trouve que Elias Sorokin a permis aux Islanders de peut-être jouer 2 matchs de plus. Peut-être que si Elias Sorokin n'aurait pas été là, cette série-là aurait peut-être été
fini plus tôt. Hein.
Peut-être. Moi, je pense qu'elle aurait fini en 4 matchs, même, pour dire à quel point que la Islanders n'était pas tant dans le coup.
Ouais, puis tu parles de Sorokin, puis on sait que c'est vraiment un but plate, celui en prolongation. Mais aussi, Adam Pellick, qui est un très bon joueur défensif, on connaît du côté Islanders. Mm-hmm. Revirement sur le but en prolongation, fait qu'il y a un peu de sa faute là-dedans aussi. C'est ça qui est dommage, là, c'est dans les meilleurs alignements des Islanders qui provoquent leur défaite. Puis Vince, tu as parlé du système de jeu très défensif des Islanders qu'on connaît. Puis avec Len Lambert, on se demandait si ça allait changer, mais en fait, Lambert est un peu le protégé de Barry Trotz. Fait que c'est pas tant une surprise qu'on n'ait pas changé le système de jeu. Est-ce que dans le futur, dans les années à venir, on peut se permettre de continuer avec ce système-là du côté Islanders ou il faut changer, il faut apporter plus de se concentrer un peu plus sur le côté offensif en sachant qu'on a quand même une bonne défense? Si, mettons, Greg, tu veux aller là-dessus. Là.
Ouais, ben, tu sais, je veux dire, c'est une équipe qui est bâtie autour de ce système-là, donc ça va être difficile de changer le système pour le rendre un peu plus offensif avec les joueurs qu'on a présentement. Tu sais, on a des outils offensifs comme Barzal, Horvat, qui a marqué, je pense, 30 buts cette saison, peut-être même 40.
Surtout avec les Canucks, là, faut dire.
Ouais.
Donc, tu sais, je veux dire, on a quelques joueurs flamboyants offensivement. Qui vont être capables de mettre des points sur le tableau. Je ne sais pas si c'est une expression en français, ça aussi, mais bon. Mais tu sais, je veux dire, pour être je pense que c'est une équipe, justement, qui a été bâtie pour jouer ce système-là. Donc, à moins qu'on change vraiment l'allure de cet alignement-là, ça va être difficile de vouloir changer ce système-là. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis.
Mais aussi, je veux dire,
c'est important de rentrer en série avec confiance. Surtout les gros canons, il n'y en a pas beaucoup de côté des Islanders là, offensivement. Barzal, ça faisait peut-être un mois qu'il n'avait pas joué, peut-être plus. Horvat, il avait connu une fin de saison horrible. Ça s'est un peu. Ça a paru en série. Ils ont un peu continué sur cette sur cette séquence-là. Puis de l'autre côté, ben, même si les Hurricanes ont plein de blessures, je veux dire, à haut, il y a 7 points, je pense, 3 ou 4 buts, tous des buts importants. Donc, tu sais, c'est un peu la différence entre ces deux équipes-là. Puis qu'est-ce qui a permis aux Hurricanes de s'en sortir?
Vince ou Dou, voulez-vous renchérir là-dessus sur le système? Est-ce que vous croyez à ce qu'on pourrait le changer? Ou comme Greg, je pense que vous pensez que c'est en fait l'ADN un peu des Islanders en ce moment?
Ben, moi, je seconde ce que Greg a dit. Là. Je pense que c'est. J'ai complètement raison, là, c'est direct ça. Ils sont bâtis pour la façon dont ils jouent en ce moment. Il va vraiment falloir changer d'identité là, si on veut marquer plus de buts. Là, parce qu'il n'y a pas grand joueur de talent offensif dans cette équipe-là.
Mm-hmm. Tout à fait. Ben, moi, vas-y, Dou.
Ben, je disais que je voulais rajouter que, tu vois, avant l'arrivée de Barry Trotz, c'était Islanders New York qui était une des pires équipes défensives de la NHL de hockey. Puis quand il est arrivé après son championnat avec Washington, il a complètement changé le système de jeu. Puis à la Islanders sont devenus une des meilleures équipes défensives de la Ligue. Donc, c'est vraiment difficile de rechanger ce système-là. Surtout que tu le sais qu'auparavant, les Islanders avaient beaucoup de difficultés dans leur zone. Donc, est-ce que tu veux vraiment retourner vers un style un peu plus offensif, comme on l'avait vu, mettons, à la dernière année, John Tavares, puis en même temps aussi, par hasard, ça a été là où Mathieu Boisel a eu sa meilleure saison, qui était sa saison recrue à 85 points. Est-ce que ça va être la meilleure chose pour eux, avec les joueurs qui ont? Moi, je suis très sceptique. Peut-être que Mathieu Boisel va être le meilleur joueur, peut-être que ça va lui permettre d'avoir une plus grande liberté offensive, mais pour le reste, malheureusement, ils n'ont pas les joueurs pour changer de système de jeu. Faudrait vraiment qu'il y ait un ménage important du côté de la New York. Puis, un autre problème aussi qu'on l'oublie aussi, les Islanders de New York ont beaucoup de gros contrats. Là. C'est les contrats à Pajot. Là, on vient de mentionner le contrat d'Harvard, mais tu as aussi le contrat à Josh Bailey qui a pu faire dans cette série-là.
Ouais.
Tu as un contrat à Andersley. Tu as un contrat à Brognason. Bref, il y a beaucoup de gros contrats du côté des Islanders de New York. Puis moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir de la difficulté à signer Sorokin. Je pense que Sorokin, il finit dans 2 ans son contrat à 4,4 millions. Là. C'est une aubaine, fait qu'on oublie ça. Là. Mm-hmm. Ils vont avoir de la difficulté à signer ça, puis ça va être très difficile de changer cette équipe-là si déjà tu as de la difficulté avec ta masse salariale.
Ouais, puis je pense que ce 2 ans de contrat à Sorokin, je pense que c'est un peu leur fenêtre de succès. C'est une équipe déjà qui vieillit un peu.
Ouais.
Puis beaucoup de gros contrats. Je pense que dans une couple d'années, ces longs contrats-là, déjà qui sont un peu douteux, ces joueurs-là ils vont pas être aussi performants dans ce moment-là. Puis tu regardes récemment dans leur repêchage. Depuis 2019, ils n'ont pas eu de choix de première ronde. Je pense qu'en 2018, ils ont repêché Wallstrom et Dobson. C'est des joueurs un peu plus à caractère offensif. Mais depuis, leur seul choix de première ronde, c'est Simon Holmstrom, qui a joué 50 parties dans la Ligue nationale jusqu'à maintenant.
On le salue.
Pardon?
On le salue.
Ouais, on le salue, Simon Holmstrom. Puis sinon, tu sais, je veux dire. On a repêché à tour à tout, puis on l'a échangé récemment pour Boervat. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de renforts offensifs qui s'en vient pour les Islanders.
Ouais.
Ce qu'on a en ce moment, c'est pas mal ce qu'on va avoir dans les 3 prochaines années, à moins qu'on signe des gens. Mais comme on a mentionné, ils sont un peu dans une situation difficile avec le cap salarial. Donc, pour moi, ça ne regarde pas bien offensivement pour les Islanders. Puis, on regarde leur défensive rapidement. Tu sais, à part Noah Dobson, je veux dire, Adam Pelleck, c'est un excellent défenseur défensif, mais il ne va jamais marquer 50 points dans une saison. C'est le même cas pour pas mal tous leurs défenseurs, à part Arnaud Dobson, qui a peut-être un potentiel un peu plus élevé offensivement. Puis je pense que pour être en mesure de performer offensivement pour une équipe, il faut avoir au moins une couple de défenseurs qui sont capables de performer puis de mettre de noircir la feuille de pointage. Donc, pour moi, ça va être très difficile dans le futur pour la Islanders.
Je suis d'accord avec vous. Vas-y.
Ben, je m'en ai juste fini là-dessus parce que j'ai la masse salariale des Islanders à l'heure actuelle. Puis dites-vous que là-dedans, tu as 9 joueurs qui sont au-dessus de 5 millions par année, dont les deux défenseurs que tu viens de mentionner, là, Adam Pelleck et Ryan Pollock. Puis là-dedans, là, tu as des joueurs comme Josh Bailey qui gagne 5 millions, tu as Cal Palmer qui gagne 5 millions, tu as Jacques-Gabriel Pajot qui gagne 5 millions. Normalement, c'est 3 joueurs de troisième trio dans une équipe compétitive qui gagne plus de 5 millions. C'est juste hallucinant de voir à quel point il y a des gros contrats. Là, tu rajoutes un contrat de Boervat, tu as un contrat à Mathieu Barzal qui commence l'an prochain, qui gagne 9 millions. Puis, tu as Andersley et Brognason qui sont à 6 ou 7 millions respectivement. Puis là, tu as Sorokin qui. Non, je me suis. Sorokin, à partir de 2024 devient joueur autonome sans passation.
C'est des très bons points. Je suis d'accord avec vous que tu ne pourras pas, avec les joueurs que les Islanders ont, tu ne pourras pas changer l'identité de cette équipe-là rapidement, du moins. Mais en même temps, je pense qu'en restant avec ce système-là de jeu, ils ne gagneront jamais de Coupe Stanley comme ça, ni. Voilà, Greg McFarlane.
Un dernier point. On a parlé de la cape salariale pour les Islanders. Puis on sait, tu sais, un petit parallèle avec les Canadiens, on sait que c'est une équipe qui va avoir beaucoup d'argent à dépenser cet été. Donc je me demande si peut-être un Josh Bailey qui reste un an à son contrat à 5 millions, tu sais, il y a une valeur négative là, sur le marché des échanges, ou un joueur comme ça pourrait être un peu. Devenir le Sean Monahan 2.0 pour le Canadien. On obtient en échange un choix élevé. Les Islanders, c'est quasiment juste ça, là, je veux dire, leur attaque. Là, c'est des joueurs qui sont surpayés. Donc, je me demande si peut-être Kent Hughes pourrait tourner vers une équipe comme les Islanders pour en autant faire leur faire un service en se libérant de la cap salariale. Puis, nous, on obtient un choix en échange en tant qu'équipe en reconstruction.
Très intéressant, très intéressant. Maintenant, bon, là, on a assez parlé des Hurricanes et des Islanders. Ça va être intéressant de voir jusqu'où les Hurricanes vont se rendre dans ces séries éliminatoires-là. Prochain match, donc, Bruins-Panthers. Écoute, tout un match offensif et atroce pour les deux défenses, là, on va se le dire. Là. C'est Brandon Montour, parlant de défenseur, qui ouvre la marque. Pas le meilleur but accordé par Yulmar, qui n'a pas connu un très grand match. Bertuzzi ensuite, réplique pour les Bruins. Tkachuk, déjà son quatrième but de ces séries-là, fait 2-1 pour les Panthers. Pasternak et Barkov en deuxième période. À ce moment-là, c'était 3-2 pour les Panthers. Et on a eu 6 buts, si je ne me trompe pas, en troisième période. C'était hallucinant comme troisième période. Bertuzzi va faire 3-3 son deuxième du match. Pasternak également en deuxième du match en avantage numérique. Est-ce que c'était celui-là, son but entre les jambes? C'était la 4-3, je pense, c'était ça?
Non, c'est son premier but.
OK, ben, en tout cas, peu importe, son premier but entre les jambes, c'était un bijou, comme on appelle. Zach Dalpé, premier but en série éliminatoire pour lui, fait 4-4. Jake DeBrusk, en désavantage numérique, fait 5-4. Et je ne sais pas ce que la défensive des Panthers était où là-dessus, là, était juste pas là. Tkachuk, ensuite, réplique et Lou Ostarinen, le but gagnant, Reinhardt en filet désert. 7-5, donc la marque finale pour les Panthers. Tout un match offensif et les Panthers résistent aux Bruins. Parle-moi du match, Vince.
Parle-moi du match. Honnêtement, je trouve que tellement que c'est une série plus intéressante que celle dont on vient de parler. Je trouve l'intensité. Juste hier, là, il y avait de grosses intensités. Là, juste en première période, les gars, ils se donnaient les mises en échec qui se faisaient terminer. Quasiment à chaque sifflet, il y avait quelque chose qui se passait. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme match. Le but à Pasternak, là, son premier but, juste il n'y a aucun respect pour Sergei Bobrovski. Là, je veux dire, c'était irrespectueux. Non. Puis si on regarde, là, mettons, le Nilsson Ulmark, il va falloir vraiment qu'il retrouve son talent de saison régulière parce que là, tu peux pas te permettre ça contre une offensive, qu'il y a des joueurs comme Barkov, Tkachuk, Reinhardt, Duclair. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de faire les arrêts à des moments clés. Parce que si on regarde le but. Ouais, Verhaeghe aussi. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, il en a scoré 40. Donc, on attend toujours qu'il fasse sa marque, par contre, dans cette série-là. Mais sinon, là, si on regarde le but de Matthew Tkachuk hier, le Nick Cousins, c'est un classique tir passe là, que Linus Ulmark a donné sur la palette à Matthew Tkachuk. Qui a fait 2-1 pour les Panthers. Fait que je trouve vraiment que c'est les revirements aussi. Je pense qu'ils ont coûté pas mal les Bruins. Ouais. Les deux ou trois buts qui ont encore été marqués sur des revirements. Là.
Clifton, des
revirements qui... pas Clifton a essayé la passe à Orlov. Fait que non, il va falloir que les Bruins trouvent un moyen d'éviter les revirements. C'est surtout des revirements en sortie de zone qui arrivent à faire. Je ne sais pas si c'est les Panthers qui jouent très bien la contre-attaque dans le fond des Bruins. C'est juste les Bruins qui savent plus quoi faire en série, mais il va falloir qu'ils trouvent une façon de stopper ça s'ils veulent gagner le match numéro 7.
Écoute, guys, c'est pas compliqué. Moi, je pense que Jim Montgomery n'aura pas le choix de faire jouer Sermon parce que Linus Omar est en train de perdre la série pour le
Bruins. C'est ça une game 7?
Ah oui, non. Ouais. C'est absolument.
L'année passée, faire jouer Cam Talbot pour la game 7, ça n'a pas été une bonne affaire là, pour le Wild. Fait que je ne sais pas si Amnis Wayman.
Absolument. Ça lancerait un message aux gens à Boston dire comme guys, c'est pas normal. Là, parce que l'année sur Mark, je m'excuse, l'année sur Mark a coûté le match numéro 5 et il vient de coûter le match numéro 6. C'est pas normal que tu te fais outplay par Sergei Bobrovsky. Puis Sergei Bobrovsky, c'est pas un grand gardien de but, là, on va s'entendre là, là-dessus.
Ah, je sais pas si tu t'es fait outplay en accordant 5 buts. Là.
Non, c'est pas ridicule. C'est ridicule. Là. Je m'excuse, mais je comprends que défensivement, Boston en arrache depuis deux dernières rencontres. Mais pour vrai, c'est pas normal. Là. Des performances comme la sorte là, en série, là, alors que t'es supposé être un gardien qui risque même de gagner le trophée Vezina, l'année seulement, il est complètement à côté. Puis écoute, on sait que Boston c'est une des rares équipes, je trouve, qui peut se permettre de se mettre à son gardien numéro 2 et dire que le gardien numéro 2 peut faire le travail. Moi, je pense qu'honnêtement, si j'étais Jim Montgomery, moi, c'est clair que je me tournerais vers Jeremy Swayman. C'est clair.
Ben, du côté des Panthers, ça a un peu fonctionné de remplacer Lyon avec Bobrovsky pour l'instant. Donc, on ne sait pas si à Boston, on va appuyer sur le bouton panique pour la partie numéro 7. Une chose, par contre, tu sais, je pense que la partie numéro 6, peut-être ça aurait été un moment un peu plus opportun pour faire jouer Swayman. Si on regarde du côté, mettons, Swayman l'échappe cette partie-là, on peut revenir avec Yomark en partie numéro 7. Puis, tu sais, je veux dire, une première partie, un baptême de série en partie numéro 7, après que ton équipe a échappé deux parties importantes, t'sais, c'est beaucoup de pression pour un jeune gardien. Puis aussi, je veux dire, si les Bruins gagnent cette partie-là avec Swayman, est-ce que ça les oblige un peu à une façon à continuer avec Swayman pour le restant des séries? Ça va être intéressant de voir vraiment, ça va être killer, leur gardien pour cette partie numéro 7-là. Il y a des pour et des contre, mais je pense que mettre Swayman dans les filets, ça. Je sais pas, c'est un peu comme s'il paniquait un peu avec Omar, qu'on va voir. Mais je sais pas, honnêtement, moi, qu'est-ce que je ferais? J'ai aucune idée. C'est une situation très difficile pour les Bruins. Là.
Mais je suis mitigé aussi parce que, tu sais, comme Vince l'a dit, un match numéro 7, entrer un nouveau gardien dans une série, je sais pas si c'est le move à faire. Lui qui a commencé aucun match dans cette série-là. Mais en même temps, Omar ne va pas bien depuis au moins deux matchs. Donc, moi aussi, je suis très mitigé là-dessus. Bon, les gars, la grosse question là, pour le match numéro 7, qui gagne? Est-ce que les Panthers peuvent vraiment faire le coup aux Bruins et éliminer l'équipe qui a battu le record de points dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey? Vince, tu peux commencer.
Je m'en vais voir parce que je vais me faire mettre en the spot, là, mais est-ce que les Bruins ont remporté leurs deux de leurs trois parties à Boston, si je ne me trompe pas, c'est ça? La série? Oui, ouais, parce qu'ils ont remporté, oui.
Non, ils ont perdu deux des trois parce qu'ils ont perdu, ils ont perdu le match numéro 2 et le match numéro 5 en progression. Non, ils ont perdu deux de...
Voilà, fait que l'avantage de la glace ne veut rien dire pour ce match-là.
Ouais.
Donc, il va falloir que les Bruins amènent leur A-game s'ils veulent remporter ce match-là. Ta grosse question, c'est qui allait remporter le match?
Ouais.
Je vais aller avec les Bruins. Je pense que tu peux pas passer une grosse saison comme ça puis perdre le match numéro 7 là, en première ronde. Puis même si les Panthers ont réussi à gagner, je comprends pas comment ils font pour gagner avec être aussi bon que ça, avec un line-up comme ça, avec Mark Stahl sur la deuxième paire. Là. Donc, il faut trouver un avantage pour contourner Mark Stahl. Là, on va être à la maison en plus, profiter des derniers changements. Le match-up de ligne.
Éviter les revirements à cave. Là.
Aussi, exact.
Comment là, les boys, les Bruins ouais. qui ont été solides défensivement tout le long de l'année, puis là, qui font ça en série, c'est décevant, mais ouais, continue.
Ouais, c'était pas mal ça. Là. Je pense que les Bruins ne peuvent pas se permettre de perdre ce match-là. Fait que je vais y aller avec les Bruins demain. C'est-tu demain?
Ouais.
Pour le prochain match.
Moi, également, je vais y aller avec Boston. Je crois juste que je suis 100% du même ami que Vince là-dessus. Je ne comprends pas comment ça se fait que la Floride a réussi à amener ces tirs-là en 7 matchs. Je regarde cette formation-là. T'as Alexander Barkov qui ne fonctionne tout simplement pas, puis il a marqué son premier but hier soir. Puis tu regardes le reste, tu regardes t'as Bobrovsky, Lyon. Bobrovsky, pour moi, écoute, c'est facile à savoir. Je ne suis pas le plus grand fan de Sergei Bobrovsky. Je pense que c'est, honnêtement, je trouve que c'est le gardien le plus surcoté de l'histoire de l'NHL. Donc, c'est pour vous dire à quel point je ne suis pas fan de Sergei Bobrovsky. Pour vous dire ça. Mais bref. Également, aussi, tu regardes la défense. Je sais pas, man.
Mark Stahl, c'est la deuxième paire.
C'est Mark Stahl, c'est la deuxième paire. T'as Rocco Gudas. Bon, t'as Brandon Montour qui a eu une saison incroyable. T'as Aaron Ekblad qui, j'ai l'impression, joue encore une fois blessé. Je trouve qu'il est pas à 100%. Fait que tu regardes cette équipe de la Floride, tu dis, si elle remporte cette. Moi, c'est pas compliqué. Si la Floride remporte cette série-là, de toute façon, ils vont perdre en deuxième ronde, que ce soit peu importe qui qu'ils affrontent, que ce soit Toronto ou Tampa Bay. J'ai l'impression que la Floride, c'est. Moi, personnellement, je préférerais mieux que les Bruins gagnent juste parce que je trouve que ce serait plus fun en regardant au deuxième tour. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu es à domicile, tu as perdu 3-1, tu es l'équipe la plus expérimentée en ce moment des équipes qui sont en séries éliminatoires. Écoute, des joueurs comme Bergeron et David Krejci qui étaient là en 2010 quand ils menaient leur série 3-0 contre Philadelphie, ils savent c'est quoi perdre des séries un peu de la paix des manières. Donc, je ne vois pas comment ils vont trouver un moyen de perdre le match numéro 7, malgré que pour l'instant, c'est sûr que la Floride a le momentum, depuis le match numéro 5.
Ben, j'aimerais faire différent que dire les Panthers, mais je pense que... Non, je pense aussi que je vais dire les Browns. Je vais dire, tu sais, les Panthers ont tout le momentum, mais on regarde les Browns, là, ils ont déjà perdu deux de leurs trois matchs au TD Garden, comme Dou a mentionné. Puis cette saison, les Browns, c'est 34 victoires à la maison en 41 matchs. Je pense pas qu'ils vont en échapper 3 de 4 en série. Par contre, tu sais, malgré le fait que les Panthers ont le choix du Canadien, je pense que ce serait une très belle histoire quand même qui revienne dans cette série-là. Là. Peut-être que ce serait un choke, permettez-moi l'expression, ouais, comparable un peu à celui de Tampa Bay ou à Toronto 2019-2021. Ça serait tout un exploit de... C'est tout un David contre Goliath complètement.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je vais pas faire mon controversé, là, je vais y aller avec les Bruins. Je pense que l'expérience, là, ça va faire en sorte qu'ils vont être capables de remporter le match numéro 7. Tu peux pas te permettre d'échapper ça si t'es les Bruins, là, même si oui, vous l'avez dit, la Floride a le momentum. Mais moi, je pense que les Bruins vont réussir à passer difficilement. Et ça pourrait faire en sorte que ce soit les Leafs ou le Lightning qui passent en prochaine ronde, que les Bruins se fassent arrêter en deuxième ronde. Moi, je pense que ça va beaucoup les avoir affectés physiquement et mentalement, cette série-là, s'ils passent au travers. Et je pense, je vais m'avancer et dire qu'ils ne passeront pas la deuxième ronde s'ils passent cette première. Mais ça va, c'est un sujet pour plus tard. T'es maintenant, dans l'Ouest... T'es pas tout seul? Bon, super. Yes, sir. Maintenant, dans l'Ouest... une autre série qui s'est terminée, les Stars de Dallas qui éliminent le Wild du Minnesota en 6 parties. Kirill Kaprizov a marqué le premier but de cette série-là, puis ensuite est disparu. Là, j'attends d'avoir le score devant moi, mais il n'y arrive pas. Bref, fini 4-1 ce match-là. 4-1 exactement. Je ne sais plus exactement qui a marqué. Mais Roope Hintz, premier but, là. Complètement fou. Là. C'est qui a déculotté de même? Un des nombreux défenseurs lents du côté du Wild. Et tout un tir ensuite sur Philippe Gustafsson. Puis le Wild a répliqué en fin de rencontre. C'était 4-0, mais c'était trop peu, trop tard. Mais on salue Freddy Gaudreau pour son beau but pareil en fin de match. Fait que les gars, les Stars qui passent au prochain tour, les favoris de Oli Guillet, qu'est-ce que le Wild a fait pour être autant... En fait, pour échapper complètement à cette série-là dans les deux derniers matchs là, avec 4-0, 4-1.
La même chose que depuis 2015.
On va y aller avec Vince, voilà.
Je voulais juste dire la même chose depuis 2015. Ouais. Ça ne change rien.
Ouais.
Pauvre ville de Minnesota qui n'est pas grave d'avoir des équipes gagnantes. C'est tellement triste. Vas-y, Lou, tu peux y aller.
Écoute, je te... C'est parfait qu'est-ce qu'il t'a dit, mais je vais continuer quand même. Bon, écoute, il y a plusieurs raisons qui expliquent la décevante défaite du Wild. Déjà, Kirill Kaprizov joue clairement blessé. Je suis désolé, mais déjà qu'il n'a pas marqué dans cette série-là, moi, je trouve ça hallucinant.
Il a marqué le premier but de la série, c'est tout.
Ah, c'est vrai. Il a marqué un but, pardon, c'est vrai. Match numéro un, mais quand même depuis 5 rencontres.
Le premier but de la série, puis après ça, c'est ciao.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est ciao. Un but en 6 matchs, puis Kirill Kaprizov. Puis Kirill Kaprizov, en plus, genre, c'était l'an passé contre Saint-Louis, il avait été extraordinaire en première ronde. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est clairement qu'il joue. Je suis sûr à 100% que son retour est précipité. Puis qu'il était tout simplement blessé. Fait que déjà là, ça commence mal quand ton meilleur joueur, qui est ton joueur franchise, ne produit tout simplement pas. Aussi, défensivement, le Wild, on en a parlé, Oli. Je trouve que le Wild, défensivement, c'est loin d'être l'idéal. T'as John Klingberg qui est défensivement, même à son apogée, il n'a jamais été un grand défenseur dans sa zone. T'as Matt Dumba qui. T'as pas ta baisse, c'est pas jeune qui fait son possible. T'as des Middleton,
c'est difficile.
T'as Middleton qui était comme normalement dans une équipe compétitive. Je ne sais même pas si défenseur numéro 6.
Middleton d'ailleurs a outscoré plus de points qu'il a pris dans cette série en passant.
Ah!
Ok, quand même. Faut quand même lui donner.
Avec 20 minutes de temps de jeu.
C'est ça.
C'est incroyable.
Ouais, c'est ça. C'est quand même assez extraordinaire vu ce scénario-là. Puis aussi, ben écoute, le Wild qui produit. Qui n'a pas produit au cours des deux dernières rencontres. Je trouve ça dommage. Comme Vince a dit, là, c'est une équipe qui est depuis même plus longtemps que ça, depuis 2013, depuis que Zach Parise et Brian Sutter sont arrivés, là, c'est une équipe qui. On dirait que c'est une équipe que tu dis ah, un jour on va peut-être commencer à être extraordinaire. Puis ah, finalement, ça, c'est soit la première ronde, soit la deuxième ronde. Ça va jamais plus loin que ça. Fait que il va y avoir des bonnes remises en question. Du côté du bois de Minnesota, mais au moins Gustafsson, tu sais que c'est ton gardien numéro 1 pour. En tout cas, je suis quelqu'un qui espère que Wasted arrive. Tu vas avoir un bon tandem de gardien de but. Puis écoute, moi je pense, honnêtement, là, je pense qu'ils sont peut-être à un joueur ou deux de peut-être être une des meilleures équipes dans l'Ouest. C'est littéralement le cas. Il en manque un vrai centre numéro 1. J'adore Joel Eriksson-Ek, mais c'est comme un parfait numéro 2. Puis Ryan Hartman, c'est pas un centre numéro 1, là, je m'excuse, c'est juste pas un centre numéro 1. Puis peut-être. Tu es peut-être aussi un défenseur numéro un, un vrai défenseur numéro un. Il y a quand même beaucoup de défenseurs qui sont des bons défenseurs top 4. Là. Tu peux passer à Spurgeon, à Matt Dumba, à Jonas Brodin. Ou John Klingberg aussi, qui n'est pas si mauvais que ça, malgré qu'il y a des lacunes défensives. Je pense que c'est ça. Ils seront peut-être un attaquant ou un défenseur de pouvoir faire quelque chose de très bien, mais pour l'instant, il leur manque des morceaux à des positions assez importantes.
Ouais, puis du côté des Stars, là, ça l'a affiché. Là. C'est Wyatt Johnston qui a marqué le deuxième but du match, son premier en carrière en série. Mason Marchment, ça, c'est un gros moment dans le match là, qui marque à 0,5 secondes de la deuxième période. Ça a complètement tué le Wild là, parce qu'après ça, c'était 3-0 pour commencer la troisième. Puis c'est Max Domi ensuite en filet désert, là, des petites passes entre lui et Marchman, c'était beau. On aurait dit un couple voilà, qui se promenait vers le but. Fait que, bref, 4-1. Les Stars, là, on l'a vu qu'ils sont capables, avec tout le monde qui joue bien, là, Seguin, Ben, Robertson, Ince, Ace Cannon, Ottinger aussi dans les buts, il ne faut pas l'oublier. C'est une équipe, je pense, qui est dangereuse et pourrait se rendre loin. Vince, est-ce que tu penses que les Stars peuvent faire un bon bout de chemin dans ces séries-là?
Moi, je pense que oui. Je les ai mis en. Moi, je les vois perdre en finale d'association, là, mais peu importe. Ce que j'ai dit, c'est que oui, leur talent est incroyable. Puis si on m'avait dit que. C'est quoi son nom? Edwin Ladonov allait être un joueur important en série pour les Stars, j'aurais jamais cru personne. Et il a fait une sale. Son jeu sur le Bowen Johnson est incroyable. Passer la rondelle entre ses jambes, ça passe sans regarder. Cette équipe-là, ça roule. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir quelle équipe qui vont se prendre en deuxième ronde là, entre l'Avalanche et le Kraken. Mais je pense que cette équipe-là a ce qu'il faut pour passer. Surtout quand on regarde là, avec le numéro 29 devant le filet, Jake Ottinger, là, il est juste incroyable. Pendant Tony Tout-Tard cette semaine, Jeff Merrick disait que Jake Ottinger Il fait penser à Carey Price dans ses belles années en série. Fait que je pense que les Stars vont être l'équipe à battre là, pour le reste des séries.
Greg?
Ouais, ben moi j'ai les Stars qui vont jusqu'en finale, honnêtement. Donc ça montre à quel point mon estime est haute envers Jake Oettinger. Mais pour cette première ronde-là, honnêtement, j'ai été un peu déçu côté du Wild. Là. On est allé voler la première game. Puis ça, c'était une excellente partie à écouter. Puis après ça, c'était un peu des parties là, pas vraiment égales. C'était des parties lopsided. Hier, c'était 4-0, 3-1, 4-1, blablabla. En tout cas, c'était pas du hockey de série. Du côté du Wild, c'était vraiment une équipe qui était bâtie pour jouer robuste. T'sais, leur slogan en rentrant dans les séries, c'était Grit First, donc robustesse en premier plan. Je pense que ça leur a un peu mal servi. On voit plusieurs joueurs, on est allé chercher Ryan Reeves, on a Marcus Foligno, qui lui, c'est des joueurs qui. C'est des joueurs qui jouent tout le temps un peu sur la ligne, mais là, pendant la série, surtout Marcus Foligno a dépassé cette fameuse ligne-là, puis ça leur a coûté une partie ou deux même. Donc, je pense que c'est une performance encore très décevante pour le Wild en première ronde.
D'où rapidement, tu voulais-tu ajouter quelque chose sur les Stars ou on passe au prochain?
Ben écoute, pas passer au prochain, mais quand même, je comprends que Louis Guillet pense que cette équipe-là peut se rendre jusqu'au bout. Ils ont tous les ingrédients pour se rendre très loin. Moi, je suis pareil comme Vince, j'ai aimé cette équipe-là pour au moins se rendre à la fin de la conférence. Je pense qu'ils vont perdre contre les Oilers, ça a été ma prédiction au début. Fait que, écoute, c'est une équipe qui est bien bâtie pour se rendre très loin dans l'Ouest.
Tout à fait, là, on a perdu M. Tardif, mais peut-être qu'il reviendra ou peut-être pas, on verra bien. Mais bref, on va embarquer tout de suite sur la dernière confrontation d'hier. 4-1, l'Avalanche qui force la tenue d'un match numéro 7, malgré que ce soit le Kraken qui est marqué en premier. Vince Dunn, premier but des séries pour lui, un joueur que j'ai pas beaucoup vu à date là, en série, mais là, il s'inscrit au pointage. Ah! Vincent qui nous dit « Je dois y aller, vous êtes les meilleurs », donc il ne reviendra pas, mais on l'aime lui aussi. Donc voilà, Vince Dunn, Mikko Rantanen, déjà un sixième but en série pour lui, qui marque et ça crée l'égalité. Eric Johnson, qui était de retour au jeu, remplaçait Josh Manson. Lui, premier but en série sur un tir qui a dévié, donc il s'implique offensivement à son premier match. Et Lekkonen, The Clutch Guy, comme j'aime l'appeler, je le dis tout le temps. Là. Mais deuxième et troisième but des séries, deux gros buts importants pour Lekkonen. Taze et Makar, on les passe sur ces deux buts. Et donc, c'était très important aussi dans l'animation offensive de ce match-là. Pour moi, c'était l'Avalanche ne pouvait pas perdre en 6 contre le Kraken. Et là, on va avoir un match numéro 7 dans ces séries-là qui est très, très, très excitant tant qu'à moi. Vas-y, d'où je te laisse parler pour tes impressions sur le match.
Écoute, pour la première fois dans cette série-là, j'ai vraiment eu l'impression que l'Avalanche Colorado était nettement supérieur au Kraken. Je ne sais pas si c'est parce que le match numéro 5 les a fait de mal et que le retour de Makar a vraiment tombé au bon moment. Mais écoute, l'Avalanche Colorado qui a été pour moi de loin l'équipe la meilleure équipe sur la patinoire hier soir. Tu as des joueurs qui sont arrivés au bon moment. Tu as Mikko Rantanen qui continue sa belle séquence, mais tu as Arthur Lekkonen qui arrive au bon moment. Tu as Eric Johnston aussi. Eric Johnston qui marque. Quand tout va bien. Eric Johnston qui marque. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis, mais écoute, moi, je pense que, honnêtement, l'Avalanche, la manière qu'ils ont joué hier, j'ai l'impression qu'ils vont facilement gagner le match numéro 7. J'espère qu'on aura le droit à un match numéro 7 mémorable, comme ça a été le cas au moins pour les 5 premières rencontres de cette série-là. Mais j'ai vraiment l'impression que l'Avalanche Colorado a vraiment pris son heure d'aller. Puis que je pense que normalement, avec le talent qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont, surtout que c'est l'équipe en titre, quand même, il faut respecter l'Avalanche Colorado. Je crois qu'à normalement, ils devraient se sortir au match numéro 7 puis gagner cette série-là. Mais de toute façon, si les Kraken perdent le match numéro 7, moi je leur félicite parce qu'ils ont joué. Au-delà des attentes qu'on avait envers eux. C'est vraiment chapeau au Kraken de Seattle qui ont vraiment joué une série extraordinaire pour l'instant.
Puis tu l'as dit, là, je ne serai pas long, Greg, tu l'as dit, d'où l'Avalanche on les attendait là, de cette domination-là envers le Kraken durant la série. Puis là, enfin, on l'a vu au dernier match. Là, il reste juste à aller à remettre ça au septième match, ce que je crois qu'ils sont capables de faire. Mais voilà, je vais laisser Greg parler pour à son tour.
Ouais, mais c'est ça. Je pense, comme Dou a dit, là, c'est vraiment un crédit au Kraken. Là, même si on perd en partie numéro 7, je pense que c'était vraiment une année d'apprentissage pour eux. Puis, je veux dire, c'est une équipe que j'avais vraiment sous-estimée. Là. J'avais donné cette série facilement à Colorado en 5. Donc, j'ai été bien surpris même hier quand j'ai vu Dunn ouvrir la marque. Si on sait, à Seattle, on commence un peu à comprendre que c'est peut-être vraiment une ville de hockey. Là. Les fans se mettent de la partie, puis c'est amusant à regarder. Finalement, l'Avalanche a été capable de revenir dans le match. Comme tu as mentionné, j'espère que ça va être une partie numéro 7 mémorable. Puis non, ça, chapeau au Kraken, puis ben, chapeau à l'Avalanche hier aussi pour avoir été en mesure de se retrousser les manches et puis de revenir dans la partie.
Tout à fait. Dernière question avant qu'on finisse ça. Moi, pour ce match numéro 7, je vais y aller avec l'Avalanche. Comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont être en mesure d'être les champions en titre, comme on a vu dans les séries l'an passé. Mais le Kraken peut encore très bien nous surprendre. D'où, toi, ton résultat, tu penches pour Kraken ou Avalanche?
Ah, moi, je l'ai mentionné clairement que moi, je pense que l'Avalanche va non seulement gagner ce match numéro 7, mais je pense que ce ne sera même pas égal parce que s'ils jouent comme ils ont joué hier, puis que moi, le Kraken, la seule affaire que je m'inquiète avec le Kraken de Seattle, c'est que je trouve que quand ils tirent de l'arrière, ils ont de la difficulté. Moi, je trouve que c'est quand ils mènent puis qu'ils ont une confortable avance, c'est là que je trouve qu'ils jouent bien puis qu'ils sont vraiment dans leur zone. Mais souvent, malheureusement, c'est ça qui différencie les bonnes équipes des grandes équipes. C'est que quand tu as des tempêtes, d'habitude, c'est là qu'on remarque que les grandes équipes sont capables de surmonter ça, puis de trouver des manières de revenir dans le match et des fois d'aller voler des matchs qui, à la base, ne méritaient peut-être pas d'être de leur côté. Malheureusement, c'est la seule crainte que j'ai pour le Kraken. Puis j'ai tellement que cette crainte-là, elle est immense. J'ai vraiment l'impression que si l'Avalanche Colorado marque dès les premiers instants puis qu'ils prennent une avance rapidement, je pense que ça va être un no-brainer, puis je pense que l'Avalanche va juste même non seulement gagner le match numéro 7, mais facilement remporter le match numéro 7. C'est pour vous dire à quel point j'ai confiance à l'Avalanche Colorado.
Mais tu dis prendre l'avance rapidement, le Kraken a marqué quasiment dans tous les matchs, a marqué le premier but presque. Dans les 6 matchs, ils ont marqué le premier but et quand même l'Avalanche a gagné 3 de ces matchs-là. Fait que même si le Kraken marque en premier, l'Avalanche peut très bien revenir. Mais ouais, toi, Greg, ta prédiction?
Ben, je suis peut-être pas autant confiant que Dou, là, honnêtement. Je vais pas faire la même erreur deux fois. Je vais pas sous-estimer le Kraken encore. Par contre, là, c'est vraiment difficile à prédire. Honnêtement, personnellement, j'espère qu'on pourra avoir une situation un peu comme les Golden Knights il y a pas longtemps. Voir le Kraken se rendre là en série. Donc, si j'ai une préférence personnelle pour le Kraken, j'espère qu'on a vu l'Avalanche récemment dans beaucoup de matchs de série. Peut-être qu'on pourrait faire différent cette saison, mais côté technique, je pense que l'Avalanche ont l'avantage. Là, puis en plus, ils jouent à la maison. Donc, c'est un grand aspect dans les séries, surtout en partie numéro 7. Donc, je ne sais pas vraiment de quel côté je penche. J'espère juste avoir un très bon match.
Tout à fait, moi aussi. Moi, j'ai mis l'Avalanche pour gagner la Coupe Stanley. Fait que,
oh ouais!
Je pense les avoir surestimés un peu, là, mais quand même, je crois que c'est eux qui vont gagner ce match demain. Fait que les gars, c'est ce qui conclut ce long épisode où on était 4, en fait 3.75, on va dire, avec Vincent Tardis qui était là. Fait que Doualé, Ibrahim et Grégory Ramel, merci pour d'avoir été là. C'était très apprécié. C'était Olivier Prince-Rouleau à l'animation. On se revoit très bientôt pour un autre épisode d'Au Premier Loge. À bientôt.